bien donc sur cet indicatif qui s'arrête soudainement en pleine tempête, car c'est une tempête cet indicatif. Donc CFM apporte sa pierre au grand débat. Cette fois, c'est le dernier épisode, le quatrième et dernier épisode consacré à la transition écologique. Et pour cela, nous avons réuni autour de la table Henri Dardet, Confédération Paysanne, Michel Delpech, maire de Monteil, Quentin Lérard, représentant CGT, Guy Peset, bénévole CFM, mais quelques autres choses aussi, notamment vers l'écologie et la verdure, Béatrice Roussel, Gilet jaune, Laurent Saint-Affre, président de la FDSEA, et tout ça devrait être régulé autant qu'il pourra par Claude Devezin. Comme je vous l'ai dit, on s'inspire des documents gouvernementaux, et les documents gouvernementaux en matière de transition écologique consacrent 17 items, c'est quand même déjà un peu plus que pour la fiscalité où il n'y en avait que 11, beaucoup moins que pour la citoyenneté où il y en avait 34. C'est vrai que toutes ces choses, la fiscalité comme l'écologie, ça coûte beaucoup plus que la citoyenneté, peut-être. Donc, c'est peut-être ce qui explique le nombre d'items. Et j'observe que sur les 17, 3 seulement sont consacrés à l'agriculture et à l'environnement. Tout le reste porte sur ce que j'appellerais les combustibles. Les combustibles, il faut bannir les moteurs à explosion, il faut bannir les chaudières et il faut diminuer le nucléaire. Tout ça est bien gentil. Et pour nous y aider, on prévoit de nous distribuer des aides à condition que nous soyons suffisamment pauvres pour de toute façon ne pas pouvoir faire les investissements pour lesquels on prétend nous aider. C'est du moins mon interprétation. Alors je vais voir si c'est justement la vôtre, et puisqu'on parle de budget de consommateurs, ben je vais me tourner en premier lieu vers Quentin Lérard pour la CGT. Qu'est-ce que vous pensez de cet aspect qui porte sur les combustibles à propos de la transition écologique?
Pour les combustibles, ben écoutez, nous à la CGT notamment, on pense que il faut donner les moyens à tous de pouvoir consommer autrement. Aujourd'hui, on ne pense pas que c'est le cas. On stigmatise les travailleurs et les salariés, même les citoyens plus largement, en disant qu'il faut qu'ils changent leurs habitudes, mais sans leur donner de réels moyens pour le faire. Donc aujourd'hui, tant que notre pouvoir d'achat ne pourra pas s'améliorer, ben on pourra pas changer de façon de consommer. Et donc voilà, je pense qu'il faut changer de politique climatique et de façon concrète, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On fait les politiques font du vent aujourd'hui, donc c'est ça qu'il faut changer.
En dehors même des budgets, du prix que ça représente, de changer de voiture, de changer de chaudière, même de supprimer la chaudière, on a aussi un problème, me semble-t-il, de réalité, de produits. Monsieur Peset, est-ce que vous pensez qu'on a facilement des pompes à chaleur disponibles, des voitures électriques ou à hydrogène peut-être après tout?
Je ne sais pas si c'est exactement comme ça que je poserai le problème, parce que vous interprétez les questions. Il me semble d'abord que quand même s'il y a ce problème de transition énergétique ou écologique même, je dirais, de la société, c'est parce qu'il y a quand même des problèmes généralement qui se posent plus généralement à la société, et je sais pas moi, française, européenne et mondiale, sans celle du réchauffement climatique, effectivement, et en particulier aussi de la biodiversité qui a préservé et qui est quand même vraiment en train d'être détruite, la pollution de l'air, de l'eau, de l'air aussi, et tous ceux qui donc il faudrait préserver. C'est ce problème global quand même qui explique que on nous demande d'entrer dans une période de transition. Eh bien, le mot, j'ai choisi comme ça, transition écologique ou énergétique. Et moi, je crois que surtout le problème que ça pose, effectivement, c'est qu'il va falloir faire des choix différents. Et des choix, donc, vous avez cité, des adaptations, parfois, au niveau de nos consommations, et sans doute même plus que des adaptations. J'ai l'impression que ce sera même des choix plus douloureux et plus forts, hein, c'est-à-dire passer à un autre mode de développement. Puisqu'il me semble, par exemple, que pour revenir sur l'actualité de ce débat, ce qui a précédé ce débat, c'est par exemple la démission de Hulot. Alors, même si je suis Europe Écologie Les Verts, tout à l'heure on l'a pas dit, mais c'est vrai. Je sais pas Saint Hulot, moi, hein, mais Hulot est parti en disant, par contre, que c'était pas compatible de penser une politique de transition écologique ou énergétique, effectivement, mais écologique de la société, avec le capitalisme libéral ou ultralibéral, comme il s'exprime actuellement, par exemple, en Europe, mais en fait partout dans le monde, hein, c'est pas mieux en Chine ou ailleurs. Donc, s'il n'y a pas cette compatibilité-là, il démissionne, bon, et par contre, il pense qu'il faut continuer à aller dans ce sens de la transformation. Alors, vous parlez de l'énergie. Moi, je dis que d'abord, le premier truc, c'était, avant de penser par quoi on remplace, c'est penser à en consommer moins, qui était quand même... qui est derrière, quand même. C'est penser à consommer moins d'énergie. Donc déjà, ça c'est dans les vies de tous les jours, mais on ne va pas culpabiliser toujours le citoyen, le lambda, là, l'individu lambda, et sans penser aux grandes consommations d'énergie aussi, sur lesquelles il peut y avoir d'autres politiques menées. Et je pense ensuite aussi, effectivement, moi, je vous le savez, je pense qu'on ne peut pas se baser, par exemple, sur le nucléaire. Alors, vous avez dit comme s'ils allaient changer quelque chose sur le nucléaire. Non, ils ne changent rien, au contraire. Ils sont en deçà de ce qu'avait prévu Hollande et donc la COP21. Ils reviennent, ils allongent tout le temps les durées de vie des centrales, tout le temps les délais.
2035. 50% en 2035.
Oui, maintenant en 2035. Et aucune n'est toujours fermée parce que le PR n'est pas prêt, parce que si, parce que ça. Globalement, moi je pense que le nucléaire ne sauvera pas le climat, au contraire. Il pourrait bien participer à une aggravation aussi, comme on l'a vu à Fukushima, des problèmes posés par tous les choix qu'on a faits comme ça. Et ce retour, revenir sur ces choix qui ont été faits depuis une quarantaine d'années, qui correspondent à un développement du capitalisme, des sociétés occidentales en particulier, mais de plein de sociétés. La Chine s'est considérablement développée, j'ai pas dit que c'était mauvais, hein. Ils étaient dans des millions de famines dans les années 60, ils sont plutôt mieux maintenant, en étant plus nombreux. Donc je ne dis pas que le développement, le bonheur, entre guillemets, des années 60, comme il a été à un moment vécu, ce soit mauvais. Simplement, je crois que maintenant, ce capitalisme-là, il est tourné que pour le profit pour quelques-uns et qu'il faut absolument qu'il y ait une réorientation, oui, de toutes ces politiques. Mais c'est globalement, c'est ça, la transition écologique. Ce n'est pas simplement sur la question, est-ce qu'on va changer les chaudières et la question de leur prime, qui est-il lisible, effectivement. Il faut poser globalement, dire vers quoi on va aller comme société. Qu'est-ce que ce sera les valeurs qu'il y aura derrière? Ça va être le bonheur, par exemple, justement. Ça va être le sens du collectif au lieu de l'individu.
Alors, si on est là, si je me souviens bien, si ma mémoire est bonne, au départ, ça a été parce que le gazoil coûtait très cher. Puis on a vite parlé de plein d'autres choses, mais enfin, ceux qui ont trouvé que le gazoil allait coûter très cher, c'était les gilets jaunes. Et autour de la table, les gilets jaunes, c'est Béatrice Roussel. Alors, les changements qu'on nous demande d'opérer, est-ce qu'il vous paraît possible de les opérer? Difficile? Est-ce que, comme le dit Monsieur Peset, c'est un changement de toute la société? Est-ce que il y a des questions plus matérielles?
Alors, bonjour. Tout d'abord, l'essence qui était trop chère au départ, c'est peut-être la goutte qui a fait déborder la coupe déjà très pleine. Et avec cette convergence d'enjeux du moment dans fraude fiscale, injustice sociale, les aberrations écologiques, le mouvement s'est élargi car tout est lié. Et donc, cette transition écologique, elle est présentée comme une urgence et elle risque d'être obsolète. Parce que comment on est arrivé là? Comment est arrivée cette transition écologique? L'écologie, il y a 100 ans, ça n'existait pas. C'était du bon sens, c'était tout simplement la préservation des écosystèmes pour pouvoir y vivre en bonne santé. Est arrivée l'ère industrielle et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'est un système de prédation qui s'est installé. Donc on nous parle de transition écologique. Et en fait, ça serait cesser, arrêter ce système de prédation qui est déjà en marche. Or, moi, je le vois pas à travers tout ce qui est proposé. Je vois pas arrêter du tout ce système de prédation. Ça continue en mettant... On essaye de mettre un petit peu de verre avec... allez, on va mettre des grandes unités de méthanisation qui sont hyper polluantes. On va mettre des méga-éoliennes, des grands parcs éoliens, pareil, qui sont... c'est pas viable non plus. Donc, l'enjeu, il est d'impliquer les gens. Pas de les faire culpabiliser ou de les impliquer réellement dans une responsabilisation de moins consommer, d'agir avec les pouvoirs publics. Les ressources de l'humain, elles sont inexploitées. On a des ressources, des compétences, une ingéniosité incroyable avec des fabrications de panneaux solaires maison, avec des choses recyclées, enfin des frigos par exemple, enfin un tas de choses. Et donc cette implication, elle est hyper importante pour moi et elle doit être locale. La transition écologique, elle peut être que locale et partagée en fait. Elle ne peut se faire que ensemble.
Alors tout ce qui a été évoqué, et pour cause, on est dans la ruralité, et ça concerne plutôt la ruralité. Hein, les éoliennes, je le déplore, mais on n'en voit pas dans l'axe des Champs-Élysées, je trouve ça dommage d'ailleurs, parce qu'il y a uniquement les paysages ruraux qui sont atteints, et pas les paysages urbains. Monsieur Delpech, comme maire, comme vice-président de communauté de communes, l'impact écologique, la transition écologique sur la ruralité et sur vos administrés.
Mais nous, je suis en charge du PCAET, donc plan climat air énergie du territoire sur la communauté de communes du Grand Villefranchois. On est à notre niveau, M. Peset travaille avec nous, on est en train d'essayer de mettre en place, de lancer quelque chose, en concertation avec les citoyens, parce que madame disait que, justement, on a un projet citoyen, une société, une SIC, donc une société qui va, pour développer les énergies renouvelables, ce sera une première grappe de panneaux en toiture. Donc on est là-dessus, on est sur ce projet, avec... comme challenge, c'est un gros challenge qu'on a, c'est devenir un territoire à énergie positive à l'horizon 2050. C'est-à-dire, en même temps que nous allons proposer de développer les énergies renouvelables, nous voulons baisser les consommations, c'est-à-dire avoir des usages plus vertueux, tout simplement. Ça a commencé déjà par la proposition d'éteindre l'éclairage entre minuit et 5 heures du matin sur 22 communes sur 29 qui ont déjà délibéré. Donc on a déjà, une démarche qui est enclenchée. Après, il faut savoir que c'est long, ça prend du temps. On a concerté, ce soir, j'arrive là d'une réunion à Villeneuve, j'ai dû quitter Villeneuve pour, M. Peset devait y être aussi, pour discuter justement des circuits courts. Donc ça fait partie aussi de la transition écologique, c'est-à-dire consommer sur le local plutôt que d'amener des provisions de je ne sais où, par avion, par bateau. Enfin, je veux dire, il y a quand même dans notre société, on a des aberrations. Manger des tomates au mois de décembre, c'est pas une nécessité. On peut se passer de tomates au mois de décembre, par exemple. On sait qu'on n'en a pas dans le coin, mais on mange autre chose, on mange du chou ou autre chose. Je veux dire, ça relève aussi du bon sens. C'est pas... ça relève de ça. C'est du bon sens, c'est tout. Et je pense que il faut que ce soit une volonté donc des élus, moi j'en fais partie, mais aussi les citoyens, il faut qu'ils se l'approprient. Et je rejoins madame dans ce qu'elle disait, peut-être pas sur tous les points, mais sur le fait qu'il faut absolument que les citoyens se l'approprient. Il faut vraiment qu'ils viennent participer à ces rencontres qu'on fait. Je vous promets, c'est enrichissant. Moi, je ne suis pas comme Guy, je n'étais pas du tout là-dedans, c'est-à-dire j'étais pas du tout dans tout ce qui était transition écologique, ça m'est tombé dessus, quoi. J'ai fait on me l'a demandé, je l'ai fait. J'ai découvert, donc, on avait un pays qui était, enfin un pays, une planète, qui était vraiment mal en point, hein, il faut le dire, hein, il faut répéter, hein, faut vraiment le dire aux auditeurs. Il faut vraiment entamer cette transition, c'est très important. C'est l'avenir de notre pays, de notre planète. Nos enfants et nos petits-enfants, pour ma part, si on veut leur laisser une planète où on puisse vivre comme il faut vraiment se bouger et aller très vite. Voilà ce que j'avais à dire.
C'est plein d'excellentes intentions.
Et oui, mais...
En même temps, concrètement, il y a un moment où il faut effectivement rejeter moins de carbone. Et pour ça, il va falloir utiliser des matériels, augmenter l'isolation, réduire sa consommation, acheter des pulls verts, mais aussi installer des matériels qui, parfois, moi je l'observe, n'existent pas. Je vais... Peut-être que en me tournant vers les agriculteurs, j'aurai une chance d'avoir un peu de concret. Laurent Sataf, comme président de la FDSEA.
Oui, bonjour. Pour reprendre un peu par rapport au début de la discussion, où la première question a tourné autour du produire autrement, du consommer autrement, pardon. Oui, il faut consommer autrement, mais il faut aussi produire autrement. Il y a quand même des choses qui ont été enclenchées quand même depuis quelques années sur nos territoires avec des centrales photovoltaïques, avec des unités de méthanisation, avec le respect aussi de la planète et ainsi de suite. Sur le photovoltaïque aujourd'hui, il y en a qui marche très bien, mais est-ce qu'il y en a assez? Aujourd'hui, on s'aperçoit que dans ces unités de photovoltaïque, qui soient à différentes échelles, qui soient sur les toits d'une maison, qui soient sur les toits d'un bâtiment agricole, d'une usine, peu importe. Je veux dire, aujourd'hui, le principe du photovoltaïque, c'est capter la chaleur naturelle, donc qui est du soleil, pour la transformer en électricité. Je veux dire, c'est la base du principe. Donc voilà, pourquoi ne pas développer aussi ce genre de production qui pourrait aussi accompagner des collectivités qui sont aussi en perte de moyens financiers avec les lois qui sont passées. Pardon. Accompagner aussi des entreprises qui ont besoin de se développer. Du coup, ça pourrait faire aussi des apports de cash pour développer les entreprises. L'agriculture aussi, évidemment, parce que, évidemment, on a besoin de capitaux pour pouvoir investir, pour pouvoir être durable et que nos exploitations soient vivables. Alors, quand je dis ça, je dis pas, n'entendez pas là-dedans qu'il faut développer à outrance, vers des systèmes qui ne dépendent plus peut-être de l'agriculture, mais plus de l'industrie. Mais voilà, il y a quand même de l'accompagnement et du progrès à faire dans tous ces domaines-là. Ensuite, sur ce que disait Monsieur Pesé sur le Monsieur, pardon, Monsieur Delpech, pardon, excusez-moi, sur le consommer local. Mais oui, évidemment, le consommer local devrait être prôné, devrait être mis en avant sur nos territoires. Alors oui, les agriculteurs, on est favorable à ça, mais aujourd'hui, on arrive qu'on se heurte à la concurrence européenne.
Alors, je crois que ça va être la deuxième partie. Puisqu'effectivement, les derniers items, il y en a que trois sur les 17, mais portent un peu là-dessus. Étant entendu que les circuits courts, c'est pas exactement le mode d'exploitation, mais je crois que ça sera plutôt mieux en deuxième partie. Henri Dardet, la Confédération Paysanne, sur ces possibilités de production et de changement d'habitude.
Bonjour à tout le monde. Donc, bien sûr que... Je vais d'abord parler pour moi par rapport à la transition écologique. Moi, je l'ai faite il y a plus de 20 ans. Je suis passé en agriculture biologique. Donc, on était déjà connotés, on nous prenait pour des Indiens, presque. Et donc, aujourd'hui, bien, il y a une chose qui est sûre, c'est que la Confédération Paysanne pousse pour une agriculture paysanne, une agriculture autonome, à taille humaine, et redonner du sens à cette agriculture qui est partie dans l'industrialisation. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les, je sais combien de minutes, les paysans se suicident. Il y a un très fort taux de suicide chez les paysans, d'endettement. Donc, il faut changer de système. Et donc, aujourd'hui, bien oui, la Confédération Paysanne, bien, on s'est battu pour amener sur le débat public, dans les tribunaux, par rapport aux OGM. Ben oui, quand en 98, on était en Irak, qu'on mélangeait du maïs, on nous prenait pour des fous. Mais on a amené le débat et les citoyens se sont emparés du débat et ont dit on veut pas d'OGM dans nos assiettes. Autrement, on aurait des OGM partout dans nos assiettes. Donc, de là, eh bien oui, il faut continuer. Et Mme Roussel a une question très intéressante, le partage. Dans l'agriculture, il n'y a pas de partage. Aujourd'hui, 80% des aides sont captées par 20% des paysans. Quand on voit que tous ces néo-ruraux qui arrivent pour s'installent sur des petites unités, ne touchent pas un centime de la PAC. Tous les maraîchers qui font un travail extraordinaire sur le local, qui demain vont être les acteurs du local, eh bien ne touchent pas de la PAC. Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, si on prenait l'enveloppe distribuée dans le département de la PAC, par exploitation, par ferme, on toucherait 35 000 euros. Donc, en 2013, on avait présenté, pour la PAC était en cours, on demandait que les maraîchers aient au moins 5 000 euros d'aide par an, chacun. Ça a été refusé par le syndicat majoritaire. Ça a été, on va pas rentrer dans un débat comme ça. Mais aujourd'hui, on peut pas laisser des gens qui touchent énormément et d'autres qui en touchent pas. Et pour aller vers une transition écologique, il faudra aider ces gens-là qui sont demain les acteurs du territoire.
D'autant qu'on va revenir sur ce débat-là en fin de débat. Vous avez tous répondu, presque, sur la production d'énergie. Hein, c'est-à-dire, finalement, la façon de faire de l'électricité. Hein, et aussi sur la façon de le consommer. Aucun d'entre vous ne s'est exprimé sur les transports. Oui, allez-y.
Moi, je veux bien le transport. Alors, sur le bilan qu'on a fait, le bilan énergétique de notre communauté de communes, hein, donc qui compte près de 30 000 habitants, 29 communes, je le rappelle, le transport arrive pour 30% dans la consommation d'énergie du territoire. C'est le transport et les logements. L'industrie arrive après à hauteur de 20% et l'agriculture et le reste beaucoup moins. Donc vous voyez qu'il y a une importance, le transport c'est très important. Donc par contre, on a un territoire qui est très difficile par exemple à équiper en transport en commun parce qu'on n'a pas un tissu urbain, c'est pas facile quoi, la réflexion elle est entamée mais je veux dire ça sera compliqué. Alors peut-être faut-il s'appuyer toujours pareil sur sur ce qui existe ailleurs aussi et peut-être reproduire quelque chose et essayer d'inventer quelque chose à l'échelle de notre territoire. Il existe le BlaBlaCar, les jeunes l'utilisent plus que notre génération, nous on n'est pas génération BlaBlaCar, mais bon, il y a le réseau Pousse qui existe qui est en route sur d'autres territoires, Conques-Marcillac l'utilise, donc c'est de l'autostop organisé. Après il y a les aires de covoiturage, après il y a une réflexion à faire sur l'organisation de l'industrie. Est-ce qu'on peut covoiturer plus facilement si on met des horaires plus adaptés? Je ne sais pas. C'est un travail de longue haleine. Hein, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais c'est vrai qu'il y a une grosse économie à faire, hein, puisque 30%, ce n'est pas rien. Quoi. C'est vraiment énorme. Et après, c'est sur l'habitat où il y a beaucoup d'économie à faire.
Si j'entends bien, le problème énergétique des transports, pour vous, la solution principale, c'est l'organisation de services publics. Est-ce que vous êtes de cet avis, monsieur Lera?
Oui. je suis plus placé pour en parler parce que on a beaucoup milité durant la grève des cheminots. Ça a été un sujet, ça a été un long sujet. On en a beaucoup parlé. Les cheminots ont mis souvent ça en avant, le fait de parler de la transition écologique, de dire que le train était un outil pour lutter contre ça, étant donné que vous rappelez quelque chose qui est je trouve très très parlant, que un train c'est 50 camions. Ça enlève 50 camions sur les routes. Il y a même en Suisse, je crois, ils transportent carrément les camions sur les trains pour les transporter d'une ville à une autre. Et donc, on avait une gare de fret qui était très importante à Cadenac, qu'on a effriché durant l'été. On a fait une action symbolique pour dire qu'on a les infrastructures, en plus c'est ça le pire, hein. Enfin ça existe encore, on pourrait s'en resservir, ça fonctionne toujours. Hein.
Voilà. Vous me permettez, les infrastructures ne sont pas équipées pour faire du ferroutage. Le ferroutage c'est le transport de containers sur les... On a un problème quand même majeur sur la ligne Toulouse, c'est la seule qui traverse notre communauté de communes, c'est qu'il y a des tunnels entre Najac et Monteil, et ces fameux wagons. Alors la voie ferrée a été refaite, et malheureusement les wagons transporteurs de ferroutage ne passent pas. Donc il y a un problème quand même technique assez important. Le rappeler. Quoi.
Voilà, mais je pense.
Après, par contre, sur le transport de voyageurs, il y a
conteneurs de sport.
Sûrement une réflexion à faire.
Pense que l'intelligence collective pourrait trouver une solution à ce problème qui est soulevé par vous là. Enfin, je pense que on a des ingénieurs très très compétents dans nos services publics. On l'a rappelé au début de l'émission. Mais il suffit de les mettre à l'œuvre et dans le bon sens et pour l'intérêt général et pas pour l'intérêt financier. Voilà.
Monsieur Peuzet, vous piaffez d'impatience
il a dit l'essentiel.
Les déplacements.
Non, mais peut-être pas sur les déplacements, oui, aussi.
J'ai dit les déplacements à dessein pour essayer d'éviter le mot transport.
Mais sur la mobilité, oui, comme on dit. Mais je ne sais pas comment dire, sur, localement, par exemple en Aveyron, vous n'allez pas dire on peut supprimer la voiture, l'essence et le gazoil et tout ça comme ça, quoi. Hein, c'est évident.
Vous abandonnez enfin vos bonnes intentions.
Mais, non, mais moi, je n'ai jamais dit ça. Je roule en voiture diesel.
Bah, c'est ce qu'il faut le moins pour l'instant.
Ah ben si vous le dites, mais je ne sais pas si vous dites toujours la vérité scientifique ou la vérité médicale. Mais ce que je oui, il y a des gens qui disent ça et d'autres non. Il y a des études contradictoires. Mais justement, je trouve que c'est toutes ces études contradictoires qu'on entend, elles sont chaque fois le fruit d'organismes qui sont soi-disant indépendants, mais qui ne sont pas indépendants de l'industrie et des États et des choix que l'on fait au niveau européen. Alors il y a quelques progrès, des fois, par exemple, sur par exemple pour le glyphosate, enfin on aura droit à voir qui c'est derrière qu'il y a dans les études, mais
on ça
a été
un essai,
an, oui, mais ça a été un ou deux ans de lutte au Parlement européen pour arriver à une certaine transparence. C'est Michel Rivasi qui a porté ça, et c'est abouti que jeudi dernier. Alors bon. Mais il me semble, moi, que même dans tout ce qui a été dit, sur la transition, on peut toujours trouver plus facilement dans le local rural des espèces de solutions, mais qui ne sont pas suffisantes. À un moment, vous avez dit quelque chose avec quoi je n'étais pas d'accord, Béatrice. C'est quand même, il faut penser aussi au plus grand et à plus grosse échelle. Parce que les gros pollueurs, c'est quand même pas le petit citoyen. C'est ce que je veux dire, même par rapport aux automobilistes et aux transports. Je sais plus, en France, il y a encore 4 centrales de charbon. Je lisais hier dans Le Monde, c'est 4 centrales à charbon, dont celle du Havre, hein, donc chez notre Premier ministre, par an, c'est 4 millions de voitures. Voilà, et des bateaux, vous savez, hein, des grands conteneurs et tout, c'est je sais pas quoi, une bonne voiture. Donc voilà pourquoi, c'est la façon dont ça a été formulé. Oui, je pense bien que vous pensez comme moi. Et les grands choix, ils sont aussi, effectivement, même plus que de la politique nationale, c'est des grands choix de changement, de réorientation, pour le moins réorientation économique, ce que tu as dit aussi, on peut vous dire, d'agriculture. Parce qu'il faudra faire autrement, apparemment.
Moi, je reviens sur le déplacement, puisque Béatrice Roussel, Gilet jaune, a été, pas mise en cause, mais les propos ont été évoqués par M. Pezet. Et vous avez été à la fois très concrète tout à l'heure, en parlant de panneaux solaires, et en même temps, alors est-ce que vous avez aussi des choses concrètes même si ça n'évoque pas la généralité vers laquelle se tournait M. Pezet, mais au niveau des déplacements. Est-ce qu'il faut passer au vélo, à l'électrique
D'une part, les pistes cyclables, d'en avoir plus déjà sur la communauté de communes, ça serait bien, pouvoir utiliser un peu plus le vélo. Et ensuite, le covoiturage en l'adaptant, en fait. Parce que il y a plein de petits villages aux alentours de Villefranche et beaucoup de gens viennent travailler à Villefranche. Si en aménageant des aires de parking, ça reprend le réseau Pousse un petit peu, mais en aménageant des aires de parking avec des panneaux d'affichage où chacun puisse poster un petit peu son heure de départ, son heure de retour, les gens puissent se retrouver là, partir ensemble au lieu d'avoir une voiture, une personne à l'intérieur. Et développer ça, parce qu'au bout d'un moment, s'il s'avère par exemple qu'il y a 10 personnes qui partent à la même heure, peut-être qu'il peut y avoir une navette qui se crée à l'échelle du village avec un où chacun paye peut-être 1 euro ou 2 euros.
Des grandes entreprises aussi, avec ceux qui sont les foyers d'emploi les plus importants
aussi. Organiser. Voilà, et puis régler, comme disait Monsieur Delpech, les horaires aussi. Peut-être pour certaines. Voilà, toutes les possibilités, en fait, c'est ouvert, il peut se créer.
Pardonnez-moi, mais les solutions que vous avez tous évoquées, je les entends proposer depuis 30 ans.
Mais ça s'applique pas.
Oui, mais ça s'applique peut-être pas. Mais en même temps, on est quand même maintenant dans une situation d'urgence. Ouais. Si on continue à carboner l'atmosphère comme on le fait, c'est la fin de la vie sur Terre dans 2 siècles. C'est peut-être déjà trop tard.
C'est pas 2 siècles.
Alors, entendre les solutions pleines de bonnes intentions que j'entends préconiser depuis 30 ans et que je ne vois pas vraiment mettre en œuvre en plus, je suis inquiet. Ben vous, Monsieur Dardet, pour la Confédération paysanne.
Moi, je pense que une des choses que on a du mal à se détacher, c'est que l'homme avec la voiture, c'est quelque chose de je sais pas, de sacré. Sa voiture, c'est un, il faudrait se détacher de la voiture pour penser autrement. Et aujourd'hui, on n'a pas encore cette pensée-là. On est loin d'être dans cette pensée-là. On est dans de l'individualisme. Ma voiture. Je m'en vais, ma voiture. Je m'en vais, je suis, j'écoute, voilà, je suis dans ma voiture, c'est mon espace. Et donc, il y a un travail énorme à faire. Je pense dans les écoles, apprendre que bien, qu'il va y avoir un changement par rapport à ça. Oui, donc, la voiture a fait la force des supermarchés. Ils ont tout compris. On fait des grands, voilà. Donc, aujourd'hui, il faut que ça change, voilà. Mais je pense que un des gros problèmes par rapport à tout ce covoiturage, c'est la place qu'a pris la voiture dans les foyers.
Voilà. Et dans l'état d'esprit,
et là, l'état
de
d'esprit,
chacun.
Ouais.
Mais aucun d'entre vous ne songe à des voitures moins polluantes, plus adaptées ou...
Bah, si. Tout le monde. Mais
si, bah, on pense tous à ça.
Parce que tous, on l'a. Après, ouais. C'est le budget. On en revient à ce que disait madame par rapport aux gilets jaunes. Hein. Le mouvement des gilets jaunes, il vient de ça. C'est que se payer une voiture électrique actuellement, hein, il faut vraiment avoir les moyens. En fait.
Électrique
encore, même une hybride. Une hybride, voilà, qui c'est quand même des budgets conséquents. Hein. Tout le monde ne peut pas se payer une voiture.
Monsieur Saint-Affre.
Oui, c'est vrai que les voitures électriques, c'est vrai que ça peut paraître une solution qui serait pertinente et idéale. Mais par contre, quand on voit que pour produire une voiture, des batteries pour les voitures électriques, excusez-moi du terme, on exploite des gamins dans des pays tiers qui sont qui vont même pas toucher 10 centimes d'euros par jour. Donc qui meurent de faim. Et donc, est-ce que nous, pour aller vers les batteries électriques pour les voitures, pour être beau, pour se taper sur le ventre en disant on a fait quelque chose pour, est-ce que nous, pour faire ça, on doit causer ou provoquer éventuellement continuer à cautionner la famine dans ces pays-là? Voilà, c'est une question, moi, qui m'interroge, ça me perturbe, et c'est, voilà, pour nous faire mieux, est-ce qu'il faut faire pire? Est-ce qu'il faut provoquer le pire chez les autres? Voilà. Après, oui, tu montres ton smartphone, c'est exactement ça.
C'est la même chose.
Les voitures diesel qui sont déclassées ici au contrôle technique et ainsi de suite, qu'est-ce qu'elles font? Elles partent dans les pays d'Afrique du Nord. Donc, on déplace le problème, on règle pas. Alors, c'est sûr qu'on peut dire, telle ou telle marque de voiture fait 2000 euros de reprise pour l'achat d'une nouvelle voiture plus verte ou ainsi de suite. Oui. Mais qu'est-ce que font les voitures qui sont retirées de la circulation en France? Elles vont, pas majoritairement, mais partiellement, elles vont dans ces pays-là. Je veux dire, oui, on peut faire pour nous, pour se dire on est meilleur, on est plus beau, on est ci, on est là, mais par contre, on déplace le problème.
Oui, monsieur Pazet.
Mais donc, c'est bien un problème global, plus que local, mais du local au global et du global au local, il y a effectivement tout un cheminement, une construction politique. Et effectivement, je crois, des choix à faire qui seront difficiles. Hein. Oui, il sera difficile, il le montre bien. Parce qu'on a on est dans une société où l'individu compte par-dessus tout.
Ouais.
Et pas le collectif.
Bah, et c'est cette prise de conscience choix, collective. Je voudrais revenir parce que sur les choix techniques. Après tout, la voiture, c'est parce qu'on est égoïste, on est très vilain, on s'est habitué. Mais le chauffage, peut-être qu'on se chauffe trop, mais en même temps, c'est quand même un peu utile, quelque part. La transition, la vraie transition, celle qui n'émet aucun carbone, c'est la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, c'est simple, c'est 5 fois le prix d'une chaudière.
La pompe à chaleur, elle émet du gaz, pas directement, mais indirectement, elle marche à l'électricité.
Elle marche à l'électricité.
Donc on n'est pas non plus totalement, à part de produire de l'électricité propre.
Je pense que la première des choses, ce serait aujourd'hui que tous les bâtiments qui se construisent, on aille vers les bâtiments passifs. C'est-à-dire qu'ils sont autonomes, et on tend vers l'autonomie. Le solaire, il faut savoir qu'aujourd'hui, au niveau du solaire, la Grande-Bretagne, ils sont beaucoup plus en avance que nous. Il n'y a plus aussi aucun technicien de solaire, très très peu. J'en ai fait l'expérience, je peux vous dire, j'en ai fait l'expérience. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui peuvent parler du solaire. On est tous sur des pompes à chaleur. Voilà, donc on est allé encore une fois de plus vers le nucléaire.
Mais parce que, enfin, pardon.
Oui, non.
Non, en fait, ça vient aussi du fait que EDF a encouragé ce développement. C'est, il ne faut pas se leurrer. Derrière, il y a une démarche de centralisation. Enfin, c'est une centralité de la production énergétique avec une gestion très centralisée de l'énergie. Actuellement, pour développer des énergies renouvelables, les raccordements sur les réseaux, c'est pas si simple que ça. Ne pensez, on peut imaginer faire développer des productions. Il faudra pouvoir se raccorder sur les réseaux. Donc, on est quand même tributaire du distributeur. Donc, ça veut dire que c'est quand même c'est en train de se mettre en place. Mais on n'avait pas du tout cette philosophie. C'était une philosophie. Si vous voulez, on est en train de découvrir maintenant qu'on peut produire. Enfin, on pouvait à l'époque, mais on le faisait pas parce que c'était centralisé. C'est un choix politique qui a été fait après sortir de la guerre.
Pendant des années, EDF a interdit la production.
Mais voilà, il y avait un choix politique qui avait été fait par les gouvernements. C'était De Gaulle à l'époque qui avait développé le nucléaire pour atteindre une indépendance énergétique, pour se justement sortir du pétrole. Ça a permis à la France de bien vivre pendant des années. Alors après, c'est pas vertueux, ça a des défauts, c'est comme tout. Mais ça a permis à la France pendant des années de bien vivre. Notre génération a bien vécu grâce à ça pour l'énergie. On payait quand même l'électricité la moins chère d'Europe, je pensais. On est le pays où l'électricité est la moins chère. Elle n'est pas la plus propre, elle est la moins chère.
Sauf sur vos productions d'énergie renouvelable qui fonctionnent, mais avec des tarifications extraordinaire, on peut s'interroger sur le point de savoir si on va pouvoir maintenir ces tarifications exceptionnelles sur l'éolien et sur l'électricité produite par l'éolien ou le photovoltaïque.
Oui.
Il y a les barrages dans notre département. Je pense qu'on n'est pas un des plus mal outils dans le département en Aveyron. Je pense qu'on a fait depuis longtemps des efforts. Il faut aussi, je tenais à le souligner.
Oui. Je ne veux pas monopoliser la parole.
Oui. Et puis, juste pour revenir sur le photovoltaïque, il ne faut pas oublier que quand même, on a relancé l'économie chinoise, le photovoltaïque. Hein. Ça a été le saumon.
On les achète encore plus loin qu'on achète les éoliennes.
Donc, et pour reparler du collectif, moi je prenais des exemples. Quand un parc éolien se fait, bien sûr, donc c'est sont tout le temps l'industriel qui trouve des propriétaires hein, qui vont toucher énormément. Il va y avoir un désagrément. Il va y avoir un désagrément pour tout le monde qui sera autour visuel. Si c'était porté collectivement par des mairies, voilà, que ça ramène l'argent à la mairie, eh bien, on changerait la donne. Mais les gens, ils ne veulent pas. Ils individualisent, on exproprie si on peut. Voilà. Donc, faut retourner vers le collectif. C'est important.
Là, si vous permettez, là-dessus, on est la communauté de communes, enfin, et pas que la communauté, il y a des citoyens, on travaille à ça, je veux dire. On est au développement d'une société coopérative. Ouais. Je veux dire qu'on est en plein dedans. Et je vous invite, on a fait les mardis du climat, la semaine dernière, c'était à Saint-Mensa sur les déplacements, justement. Aujourd'hui, il y en a une à Villeneuve sur les circuits courts. Il y en a une sur le développement des énergies renouvelables à Monteil la semaine prochaine, mardi prochain. J'invite les gens à rejoindre ce mouvement citoyen. On y est en plein. Je veux dire que là, vraiment, il y a matière à débat. Je pense que c'est peut-être la première fois où quelque chose est initié, où il n'y a pas que le politique qui décide. C'est-à-dire où il y a vraiment une implication citoyenne. Donc Guy est avec nous, il aide à travailler, il est avec nous. Et je vous assure, venez nous retrouver et venez rejoindre ce mouvement quand même. Parce que c'est ce que disait M. Dardet, et il a raison. Ces champs d'éolien ou ces champs solaires, ils seront beaucoup plus acceptables s'ils sont faits par tout le territoire, et en accord avec tout le territoire. Ouais. Moi, j'ai visité un champ éolien à La Lunette, pas loin d'ici, dans le nord du Lot, qui a été lancé par un développeur qui est venu.
Avec des éoliennes qui produisent du courant ?
Oui, des produits électriques, qui produisent du courant, parce que là aussi, il faut dire que le solaire ne fera pas tout. Et l'avantage de l'éolienne par rapport au solaire, c'est que la nuit, elle tourne. Tandis qu'un solaire, la nuit, pour le moment, on n'a pas de moyen de stockage. Si, on a des batteries, mais comme disait M. Sentaf, les batteries, ce n'est pas forcément la panacée. Quoi. Pour le moment, techniquement, on n'a pas de moyen pour stocker l'énergie. Donc, produire l'électricité la journée sur le toit de la maison, si on pouvait le faire en autoconsommation, ça serait l'idéal. Mais c'est très compliqué pour le moment. Moi, je pense que si on développe, on peut développer l'éolien, si c'est fait intelligemment, en concertation avec tout le monde, et que ça profite au territoire. que ça ne reparte pas pour des développeurs qui sont de Suède, de Norvège ou de je sais pas, de chez où. Et qui, donc l'intérêt, c'est ça. C'est développant, mais il faut le faire en concertation avec tout le monde, avec les citoyens, et faisons quelque chose d'acceptable. C'est-à-dire, on n'en met pas 150, on en met peut-être 4, 6, 8, je ne sais pas. Ça, c'est, moi, je ne suis pas technicien, hein, je suis politique, donc je m'occupe de ça. Je ne suis pas encore rentré dans la technique. Mais je pense que, qu'on peut réfléchir à ça, et que ça doit être une réflexion globale, c'est-à-dire avec tout le monde. Vraiment, que
ça, les citoyens ça doit plaire aux Gilets jaunes, la réflexion globale, Béatrice Roussel.
Ah, oui, tout à fait. Surtout en voilà un parc éolien en gouvernance partagée. Encore faut-il voir les nuisances véritables des éoliennes. Par exemple, en Bretagne, il y a un parc éolien qui, pourtant, était accepté par les paysans, mais vraiment, il y avait aucun. Ils ont même pas fait appel à un groupe d'études pour voir les nuisances. Ils accueillaient vraiment sans arrière-pensée. Or, il s'avère que les vaches, il y a des morts de vaches, et le lait n'est plus bon, elles ne veulent plus aller sur les terrains, ils en sont à 93 000 euros de pertes, et pourtant au départ ils étaient pour.
Ah
ouais. Alors voilà, peut-être c'est la taille des éoliennes, peut-être c'est les transfos, j'en sais rien, ce qui se passe. J'ai juste lu ce rapport, c'est l'endroit qui a, en fait, il y a eu le plus d'études menées parce qu'ils comprennent pas ce qui se passe. Donc voilà, voir ce qui se passe réellement. Et juste la dernière chose que je voulais dire, c'est par rapport au chauffage. Le poêle de masse, par exemple, dans une maison. Bon, en sachant évidemment que l'énergie qui pollue le moins est celle que l'on ne consomme pas. Mais sinon, il y a le poêle de masse. Le poêle de masse qui vraiment utilise
et qui émet du carbone.
Très peu, il y a double combustion, il y a très peu d'émissions et il y a très peu de combustible. Donc c'est vraiment une solution qui est pour ce qui est nécessaire là maintenant, c'est une belle solution.
Laurence Attaf, ça va nous amener en plus, vous vouliez réagir sur les éoliennes et leurs répercussions sur le milieu agricole, et puis ça va nous amener à parler après d'autres choses que de l'énergie.
Oui, je voulais réagir. Alors oui, il peut y avoir éventuellement un cas exceptionnel comme cité Madame Roussel, pardon. Voilà, qui peut être un cas exceptionnel. On côtoie quand même quelques agriculteurs qui sont dans la zone de l'Aveyron où il y a le plus d'éoliennes, c'est-à-dire le Lévezoux. Et c'est vrai que moi, j'ai pas de gros retours marquants ou de cette dimension-là, quoi. Donc, à partir du moment où, il y a pas, faut pas généraliser ce que vient de dire Madame Roussel, parce que voilà, concrètement, vu le nombre d'éoliennes qu'il y a sur le Lévezoux, ça serait vraiment problématique et visible et démontré. Mais par contre, je voulais juste rebondir. Il y a une vingtaine d'années ou même 25 ans, j'ai fait un stage en Allemagne où déjà, sur une exploitation, alors c'est vrai que c'est exploitation type Allemagne de l'Est, kolkhoz, ancien kolkhoz, ainsi de suite. Donc vraiment des dimensions, surdimensionnées et ainsi de suite, mais avec beaucoup d'actifs. Sur les exploitations et autonome en énergie, donc il y avait déjà des parcs éoliens sur l'exploitation qui permettaient de rendre le village autonome. Il y avait du photovoltaïque où ils stockaient, ils revendaient, et il y avait tout le chauffage du village, tout le village sur lequel logeaient les salariés était chauffé toute l'année avec le lisier des vaches. Donc voilà, il y a des choses à faire, quoi. Il y a des choses à faire.
Alors, vous avez conservé la parole, parce qu'on a parlé jusque-là de l'énergie. Il serait temps de parler de la biodiversité, des poisons divers et variés qu'on épand dans l'air et dans la terre. Là, de ce point de vue, qu'est-ce qui vous paraît pouvoir être fait et quelle est l'urgence ?
Puisqu'on reprend sur les sujets agricoles, c'est vrai que j'ai découvert quelque chose ce soir, c'est que la PAC, la politique agricole commune, donc qui est européenne, était gérée par le syndicat, par la FDSA de l'Aveyron. Donc c'est vraiment une bonne chose.
Non, pas la
mais il y a des choses qui devront être faites par rapport au climat et à l'environnement et ainsi de suite, donc par rapport à l'agriculture. Mais je veux déjà repartir en amont en citant quelques exemples de choses qui ont été faites et qui ont été faites par les agriculteurs sur nos territoires. Alors, il y a une prise de conscience qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années ou 25 ans. C'est que les bouses de nos vaches, les déjections de nos animaux, n'étaient pas un sous-produit. C'est quelque chose qui, une fois stocké, pouvait être épanoui sur nos terres pour valoriser, pour être valorisé et pour éviter une bonne partie de consommation extérieure, c'est-à-dire d'achat d'engrais, ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui a été fait depuis une vingtaine d'années, qui a été mis en place depuis une vingtaine d'années ou qui a été redéveloppé depuis une vingtaine d'années par l'agriculture, qui aujourd'hui apporte vraiment ses fruits. Une autre chose, quand on parlait tout à l'heure de consommation, oui, de gasoil et ainsi de suite. Alors, c'est pas parfait, mais par contre, il y a de plus en plus d'agriculteurs aujourd'hui qui font des techniques de travail du sol, donc travail du sol simplifié, c'est-à-dire du non-labour, notamment dans les pentes, ce qui permet d'éviter de l'érosion. Donc de l'érosion, qui dit érosion, dit de la terre qui va dans les cours d'eau, dit cours d'eau bouché, dit de plus en plus de difficultés par rapport à la faune sauvage, et ainsi de suite. Donc oui, il y a de gros efforts qui ont été faits là-dessus depuis quelques années. Et de fait, les méthodes de travail simplifiées avec du non-labour, et ainsi de suite, réduisent aussi l'utilisation de produits phytosanitaires. Alors, c'est vrai qu'on est l'agriculture est stigmatisée en disant les phytosanitaires. Oui, ils s'en consomment, mais par contre, oui aussi, ils s'en consomment de moins en moins par l'agriculture en France. Je ne sais pas si vous avez vu une étude qui est sortie cet hiver, qui dit que l'Aveyron est classé le 89e département au niveau utilisation de phytosanitaire.
Mais bon.
Donc ça veut dire qu'on utilise quasiment rien. Parce qu'on a aussi une agriculture qui est parce qu'on a aussi des surfaces agricoles qui sont majoritairement en herbe et du coup qui sont pas consommatrices. Et après, pour citer d'autres exemples, sur notre territoire, donc le territoire de l'Aveyron, et en appui, c'est vrai, avec les collectivités, et la majorité d'entre elles jouent bien le jeu, elles jouent très bien le jeu. Voilà, il y a des choses qui sont faites, notamment le recyclage des plastiques agricoles. On est le premier département en France par les volumes de plastique agricole recyclé. Et voilà, il faut s'en satisfaire. Par contre, faut améliorer encore. Oui, il y a de la marge de progression. On n'est pas à 100% de plastique recyclé. On doit être autour de 78%. Voilà. Mais il y a encore de la marge de progression. Et juste un dernier point, si je peux me permettre. Il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. C'est que tous les agriculteurs, quels qu'ils soient, ont reçu des terres. Donc leur capital foncier, ils l'ont reçu de leur famille, majoritairement. Et l'objectif est bien, je pense, pour l'intégralité, je veux dire, des agriculteurs, et bien de pouvoir le transmettre à leurs enfants, ouais, et de façon durable. Il ne faut pas oublier ça.
Alors, cela dit, moi, j'ai noté que, bon, en Aveyron, on avait surtout de l'herbe. Que donc, on utilisait peu de phytosanitaires. Certains nous diront que ça produit quand même de l'effet de serre à cause des flatulences des vaches. Mais ça, c'est par parenthèse. En revanche, si on peut regarder sur le plan national, parce que, bon, vous diminuez, tout le monde souhaite que vous diminuiez le phytosanitaire, mais tout ça se passe dans un marché concurrentiel européen, voire mondial, monsieur Dardet.
Oui, donc, par rapport à la diminution des phytosanitaires, à l'Aveyron, c'est vrai que peut-être on est classé très très bas, mais il ne faut pas oublier qu'en global, l'année dernière, 2018, on a encore battu des records de vente de phytosanitaires. Donc, il y a des gens qui épandent et ce n'est pas normal. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a un grand pas à faire. On distribue de l'argent public. Il ne faut pas que cet argent, on le donne à des gens qui prennent une grosse partie de cet argent et qui vont encore engendrer de la pollution. Ce n'est plus possible, ça. Il va falloir arrêter ce schéma-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas distribuer tout le temps de l'argent public et que derrière, encore des impôts vont servir à dépolluer. Alors, tu vois, un exemple pour les plastiques. Mais faut diminuer les plastiques. Mais comment? Mais faut produire autrement. Faut produire autrement. Oui. Ben, ouais, ben, faut produire autrement. Donc, on est encore dans ce schéma, parce que là, faut savoir que aussi aujourd'hui en Aveyron, dans l'élevage, on touche 60-70% d'aides viennent, nos revenus, on est des remises de la terre, viennent de la PAC. Donc, il serait temps aujourd'hui que, ben, on donne la carotte, on dit maintenant, voilà, il y a problème. Tous les cours d'eau, quand on regarde les analyses de cours d'eau, c'est déplorable. Donc, on va pas dire, c'est le rural, enfin, c'est bien nous, les paysans, qui sont fautes, qui sont acteurs de ces problèmes-là. Donc, ben, il faut engendrer une autre politique.
Il y a plus voilà. que paysans, hein, ouais. quand même. Les
individus aussi. Oui, les industriels.
Mais les individus aussi, les résidentiels ouais. aussi, sur le problème des cours d'eau et de l'eau, ouais. et de l'air peut-être aussi, en ouais. général. Parce que je crois qu'en fait, ça pose aussi ce problème de l'eau, ce problème des pesticides, des herbicides, sont des problèmes de santé aussi, de santé ben, publique importants. On le voit, ça commence à se développer en parlant de la santé, par exemple, pour certaines professions, comme les agriculteurs, avec le maladie de Parkinson.
Ce sont des poisons, et des poisons mais c'est de l'argent, qui ne disparaissent pas.
Oui, c'est des poisons, et c'est de l'argent que l'on ouais. dépense beaucoup, et dans un budget compte beaucoup, et... que justement, il n'est jamais mis en concurrence, c'est ce qu'il explique, entre toutes ces dépenses qu'il y a publiques, à la fois pour après la santé, à la fois
dépolluer,
voilà. alors qu'on a aussi de l'argent public pour polluer, c'est quand même grave, oui, c'est vrai. C'est,
ouais.
Cette réflexion, c'est vrai qu'elle est difficile à mener, effectivement, parce qu'elle est au niveau même européen, peut-être mondial ensuite, mais effectivement, il faut commencer par faire des choix quand même qui seront difficiles.
Mais là, pour une fois, je vais citer texto le questionnaire gouvernemental. Que faudrait-il faire pour protéger la biodiversité et le climat tout en maintenant des activités agricoles et industrielles compétitives par rapport à leurs concurrents étrangers, notamment la compétitivité, européens hein, ouais.
C'est le genre de question où je mettais autre, hein, si ouais. je rentre.
On est en contradiction totale.
Ouais.
C'est comme quand ils demandent qu'est-ce que vous voulez, plus d'hôpital et en même temps moins d'impôts.
Non, c'est pas comme ça.
Lui paye.
Sur les produits phytosanitaires, oui, il y a des marges de progression. Ouais. Oui, les agriculteurs ont conscience qu'il y a des marges de progression. Ça passera par de l'innovation, par de l'accompagnement technique. En passant par là, on y arrivera. Oui, le glyphosate est considéré, alors, comme on disait tout à l'heure, suivant une étude ou l'autre, si là, indépendante de qui, de là. Voilà, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un marché qui est pas concurrentiel, qui est concurrentiel. C'est-à-dire que, aujourd'hui, il y a on parlait l'année dernière des accords du Mercosur. Alors, les accords du Mercosur ou du CETA ou ainsi de suite, c'est des accords d'échange. En gros, on vend des avions aux Canadiens et en contrepartie, on leur prend des produits alimentaires. Il faut savoir qu'au Canada, ils ont la possibilité de... Enfin, en France, il y a 46 molécules qui sont interdites en France et qui sont autorisées au Canada. Alors, nous, c'est interdit, c'est très bien. Mais c'est très bien que ce soit interdit. Mais par contre, pourquoi est-ce qu'on rentre des marchandises, des produits alimentaires, des denrées alimentaires de ces pays-là? Et là, c'est l'État qui les rentre. C'est des échanges internationaux. Donc c'est l'État qui cautionne le fait qu'on rentre des produits de ces...
Qui organise la concurrence.
Qui organise la concurrence. Il y a... j'ai perdu le fil.
Monsieur Dardet avait l'air de douter un instant.
Pas que l'État, c'est nous. L'État, c'est nous. Il ne faut pas oublier, c'est nous. Aussi. Je te prends un exemple au niveau des élections chambres, au niveau de la Chambre d'agriculture de l'Aveyron. C'est au bout de la troisième motion présentée par la Confédération paysanne qu'ils ont voté contre le TAFTA, les accords et le libre-échange. Au départ, on ne voulait pas en entendre parler. Donc, il y a des remontées, quand même. Si la base, c'est pas que l'État. L'État, c'est quand même les bases. Voilà, donc il ne faut jamais dire que... déléguer que... Voilà, on est l'État. Donc, c'est quand même nous, collectifs, qui pouvons faire bouger les choses. tu vois.
Je suis d'accord avec toi qu'on est l'État, ouais. mais par contre, oui, il y a des choses sur lesquelles je pense qu'on est tous d'accord, ouais. qu'on s'oppose, et que l'État ne nous suit pas. Il y a, allez, c'est un sujet qui nous concerne peut-être moins, ouais. puisqu'on parle biodiversité, écologie, et ainsi de suite, et qui nous concerne peut-être moins... Pour le moment, et je souhaite que ça dure dans notre petit cocon du Villefranchois, ouais, ouais. allez, on peut parler du loup ou de ce type de prédateurs-là. Ou, donc, c'est l'État. Et là, malgré qu'il y ait, je pense, une très forte opposition, c'est l'État qui cautionne le fait de développer ou de laisser développer cet animal, ce prédateur, le loup, et qui, du coup, pose des problèmes de biodiversité, parce qu'aujourd'hui, il y a certains éleveurs sur le Larzac qui ne peuvent plus sortir leurs troupeaux, parce qu'en fait, ils sont systématiquement attaqués par les loups. Donc du coup, c'est bien un cas concret où l'État n'est pas à l'écoute des usagers du territoire et n'est pas à l'écoute, enfin, n'est pas écolo, parce qu'en fait...
Ne met pas les moyens en face pour aider, accompagner. Ne met pas les moyens.
Alors, c'est quoi les moyens pour accompagner?
Les moyens, c'est, il faut de l'argent pour accompagner des clôtures adéquates. Enfin, il y a des choses qui sont faites, mais c'est très compliqué. L'ayant vécu à travers un ami qui a été confronté au loup, eh bien, tant qu'on n'y a pas été confronté, on peut pas parler. Mais faut pas oublier que le loup, il est sur la chaîne alimentaire au même niveau que l'homme. Donc on supporte pas
la
concurrence. La concurrence, et c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est assez compliqué. Et je voulais juste revenir, une petite parenthèse, par rapport aux aides. Aujourd'hui, en France, celui qui prend le plus d'aides de la PAC, il s'appelle Monsieur Lactalis. Voilà. Monsieur Lactalis, il prend 21 millions d'euros d'aide par an du budget de la PAC parce que depuis 2015, le démantèlement des quotas, les gens se sont mis à produire du lait, surproduction de lait. Donc il est payé pour faire de la poudre de lait et pour la stocker. Voilà. Encore une fois, c'est une aberration totale. Et des gens qui produisent des légumes qui sont là tout autour de nous, qui ont du mal à vivre, ils touchent rien. Voilà.
Eh bien, on voit que la transition écologique recouvre de nombreux sujets. On arrive au terme de cette quatrième épisode du Grand Débat de CFM. Autour de la table, ce Grand Débat à propos de la transition écologique réunissait Henri Dardé, la Confédération Paysanne, Michel Delpech, le maire de Monteil, Quentin Lera, représentant de l'Union CGT, Guy Peset, représentant d'Europe Écologie et Vert, Béatrice Roussel, Gilet Jaune, Laurent Affre, président de la FDSEA, et tout ça été régulé par Claude Leveza. Cette fois, je ne vous dis pas à la prochaine fois, puisque on a épuisé les quatre épisodes du Grand Débat, qui est rediffusé le dimanche et qui sera diffusé en podcast d'ici quelques minutes.
La vie des pays. La vie des pays. CFM.